VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le secrétaire américain à la défense, Jim Mattis, est arrivé aujourd'hui en Égypte pour poursuivre le réchauffement des relations américano-égyptiennes, deux semaines après la visite du président Abdel Fattah al-Sissi à la Maison-Blanche. Lors de la visite de M. Sissi aux États-Unis, Donald Trump avait salué son travail fantastique à la tête de l'Égypte, tournant ostensiblement la page des critiques de l'administration Obama sur les droits de l'homme. Au Caire, M. Mattis sera reçu par le président égyptien, puis se rendra au ministère de la Défense pour un rendez-vous avec le général Sedki Sobhi, son homologue égyptien. Lors de ces entretiens, les responsables devraient notamment évoquer la situation au Sinaï, où l'Égypte est confrontée à une insurrection menée par la branche locale du groupe djihadiste État islamique. En Côte d'Ivoire, 6 ans après la chute de Laurent Gbagbo, son parti, le Front populaire ivoirien, reste divisé par une crise sans précédent. Deux camps s'affrontent pour le contrôle du FPI et les tentatives de conciliation sont jusque-là restées vaines. À Abidjan, retrouvons notre correspondant, Georges Ibrahim Tunkara.
Dans le souci de sécuriser les personnes et leurs biens, les autorités de la région ont pris certaines décisions qui entrent en application à partir de ce vendredi, à savoir la circulation des motos à 2 roues et à 3 roues est interdite.
Laurent Gbagbo et son épouse Simone en prison, c'est toute la machine FPI qui se trouve grippée. Deux camps revendiquent l'héritage du chef. D'un côté, celui de l'ancien Premier ministre Pascal Afinguessan, reconnu par le pouvoir d'Abidjan, et de l'autre, celui de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Abdourahmane Sangaré. Comment comprendre cette crise, Pascal Afinguessan?
La crise est une crise d'abord pour savoir quelle nouvelle ligne adopter et autour de quelle personnalité construire l'avenir.
Laurent Akoun, vice-président du Front populaire ivoirien, tendance Abdourahmane Sangaré.
Cette crise est le fruit de notre histoire. Ce n'est pas exact qu'un parti comme le FPI ne puisse pas connaître en son sein ce genre de situation. Ceux qui se réclament du FPI de M. Ouattara, ceux qui se réclament ne sont plus, pour un certain nombre et en particulier pour celui qui est leur chef, ils ne sont plus membres du Front populaire ivoirien.
Conforté par une décision de justice qui le reconnaît comme président du FPI, Pascal Afinguessan s'évertue à ramener le parti dans le jeu politique. Pour lui et ses partisans, pas question de pratiquer la politique de la chaise vide. Afi veut donner une nouvelle orientation au FPI.
Le FPI a été perçu à un moment donné comme un parti fermé, sectaire. On l'a traité de parti de xénophobie, de ceci, de cela. Il faut travailler à élaguer toutes ces accusations.
Pour Laurent Akoun, la libération des prisonniers politiques et la mise sur pied d'une nouvelle commission électorale sont des exigences à satisfaire en vue du retour du FPI dans le débat politique.
Nous sommes dans le jeu électoral, mais nous ne sommes pas d'accord pour accompagner, pour donner une option à un processus qui est fondamentalement inique.
De nombreux militants du parti sont déboussolés et espèrent une fin rapide de cette crise. Pascal Afinguessan.
À un moment ou à un autre, il faudrait bien que nous trouvions une solution. Soit on se retrouve ensemble, on fait l'unité du parti, ou bien c'est la séparation.
Le temps de la réconciliation est terminé. Afinguessan ne fait plus partie du FPI, selon Laurent Akoun.
Il n'est plus de notre parti, puisque c'est un problème qui idéologiquement nous sépare.
Le fossé qui sépare les héritiers politiques de Laurent Gbagbo est encore grand et il faudra sans doute attendre le retour du chef charismatique pour que le FPI retrouve son unité d'antan. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Au Mali, et face à l'insécurité grandissante dans la région de Gao, les autorités locales ont pris certaines mesures pour faire face à cette situation. À Gao, on retrouve notre correspondant Boubacar Touré.
Dans le souci de sécuriser les personnes et leurs biens, les autorités de la région ont pris certaines décisions qui entrent en application à partir de ce vendredi, à savoir la circulation des motos à 2 roues et à 3 roues est interdite entre les villes et les villages dans toute la région de Gao. Le port d'une arme à feu est formellement interdit aussi en ville ou hors de la ville, sauf pour les militaires maliens et leurs alliés et les soldats du MOC, le mécanisme opérationnel de coordination. Le chef de l'exécutif régional, Seydou Traoré, a tout d'abord encore insisté sur les causes ayant peiné les autorités administratives et militaires à prendre de telles décisions avant d'inviter les uns et les autres à faciliter le travail aux militaires maliens et étrangers qui se battent au quotidien pour le retour de la paix et de la sécurité dans la région. Les populations de la région de Gao comprendront la nécessité de prendre de telles décisions. Wait and see. Boubacar Touré, VO Afrique. Dans le souci de sécuriser les personnes et leurs biens, les autorités de la région ont pris cette...
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VO Afrique, 24h/24.
La première ministre britannique Theresa May compte faire campagne en promettant la fin de la liberté de circulation dans le Royaume-Uni pour les ressortissants du reste de l'Union européenne. Selon le Daily Mail, dans son programme électoral, Theresa May compte s'engager à ce que le Royaume-Uni se retire à la fois du marché unique européen et de la Cour européenne de justice. Ajoute le journal qui cite des sources au sein du Parti conservateur. La première ministre a surpris les marchés financiers, mais aussi la classe politique britannique, y compris dans son propre camp, en annonçant que des élections législatives anticipées auraient lieu le 8 juin, un choix que le Parlement a rapidement entériné. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, va se rendre à Londres le 26 avril pour y rencontrer la première ministre britannique, Theresa May, dans le cadre de la préparation des négociations du Brexit, a annoncé aujourd'hui une porte-parole de la Commission. À trois jours du premier tour, les onze candidats à la présidentielle française se retrouvent ce soir pour un dernier round télévisé, un quart d'heure pour chacun en direct, mais séparément. Dans une campagne à multiples rebondissements et au niveau de suspense inédit, ce sera la dernière grande fenêtre médiatique avant la très attendue échéance de dimanche, notamment pour les quatre en position d'accéder au second tour au vu des intentions de vote. De nombreux journalistes européens subissent des intimidations sous forme de violences psychologiques ou physiques, de cyberharcèlement ou de poursuites judiciaires. Une forte proportion d'entre eux s'auto-censurent par crainte de ces pressions, dénonce aujourd'hui le Conseil de l'Europe dans un rapport rendu public. Au cours des trois dernières années, 40% des journalistes interrogés pour ce rapport disent avoir subi des interférences injustifiées dans leur travail suffisamment graves pour qu'elles aient un impact sur leur vie privée. La Maison-Blanche a évoqué hier une possible rencontre entre Donald Trump et le pape François, avec lequel il a eu de vifs échanges durant la campagne à l'occasion de la visite du président américain à la fin du mois de mai en Italie. Le président américain a prévu en effet de participer au sommet des dirigeants des pays du G7 qui aura lieu les 26 et 27 mai à Taormina en Sicile. Il se rendra auparavant au sommet de l'OTAN à Bruxelles.
VOA Afrique en direct de Washington.
Plus de 3000 Syriens évacués de localités assiégées étaient bloqués aujourd'hui près d'Alep, où la poursuite de l'opération d'évacuation est suspendue à la libération de prisonniers par le régime, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Mercredi, 3000 personnes avaient été évacuées des localités loyalistes de Foua et Kafraya, assiégées depuis 2 ans par les rebelles dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest. Les 2 convois d'une 60aine de bus au total étaient immobilisés aujourd'hui. Les cars des habitants et des combattants de Foua et Kafraya stationnaient à Rachidine, une banlieue rebelle de la métropole d'Alep, utilisée comme zone de transit. Les bus du deuxième convoi étaient à l'arrêt dans la zone de Ramoussa, contrôlée par le gouvernement au sud d'Alep. L'opposition vénézuélienne appelle à de nouvelles manifestations aujourd'hui contre le président Nicolas Maduro, au lendemain de vastes rassemblements au cours desquels 3 personnes ont été tuées, 30 arrêtées. Le gouvernement de M. Maduro a dénoncé l'interventionnisme des États-Unis après des déclarations du secrétaire d'État américain Rex Tillerson, affirmant que le pouvoir vénézuélien viole sa propre constitution. M. Tillerson s'est également dit préoccupé par la situation dans ce pays où 8 personnes ont été tuées en 3 semaines de contestation. La Cour suprême du Pakistan a ordonné aujourd'hui de plus amples investigations sur les accusations de corruption visant le premier ministre Nawaz Sharif, mis en cause dans les Panama Papers, sans pour autant demander sa destitution. Une enquête approfondie est nécessaire, a estimé le juge Asif Saïd Koussa, en annonçant la décision très attendue prise ce jeudi après des mois de procédure déclenchée par la publication l'an dernier de documents évoquant des holdings offshore détenus par ses enfants. Jean-Roger Billon à ce micro, le prochain journal dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Restez en notre compagnie. Merci pour votre fidélité et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.